21 au 28 août, c'est les 37e rencontres cinéma de Jindou.
Joli village de Jindou. Et alors avec votre accent, ça fait Jindou. Je me disais, mon Dieu, ils ont des gens qui sont doux, c'est bien ça.
En salle ou sous les étoiles, d'archives en avant-première, de courts en long-métrage, on vagabonde d'idées en réalité, tout en faisant le tour du monde en images avec des films présentés par ceux qui les font et ainsi rencontrer ces raconteurs d'histoires lors des tchatches quotidiennes.
C'est des films qui peuvent se lire à plusieurs niveaux.
Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, une image c'est une idée. Hein. C'est plusieurs idées même, c'est une série de signes, donc ça parle du monde. En fait, c'est faire du cinéma, c'est participer travail intellectuel collectif de l'humanité, je veux dire bien entendu. Donc c'est vrai que le cinéma est une des manières. Donc.
Durant le festival, Antenne Doc vous livre le programme en détail le matin à 9h et à 19h, retrouvez les réalisateurs, publics et autres personnes présentes sur les rencontres cinéma.
Je dis toujours que toute sa vie, on devrait rester nomade de l'interrogation plutôt que sédentaire de la certitude.
Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire même à un niveau individuel, tous les jours, se reposer la question tous les matins quand on se réveille, de se demander qu'est-ce que c'est que notre action sur le réel dans lequel on est, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on fait.
Sur place, de quoi se restaurer, lire avec la librairie de Saran, des apéros-concerts et plein d'autres choses encore à découvrir durant les 37e rencontres cinéma de Jindou du 21 au 28 août. Pour retrouver toutes les infos sur les rencontres cinéma de Jindou, direction la toile internet à l'adresse jindou.org.
Bonjour et bienvenue dans nos rencontres cinéma de Jindou. Aujourd'hui, direction le Maroc en compagnie de Simone Bitton. Nous avons vu son film Ziyara hier soir sur l'écran de verdure ici à Jindou. Je vous propose d'en écouter un extrait et ensuite, avec Loïc, nous lui tendons le micro.
Smiya Diali Yusuf Ahmadi. ساكن في الزدونة
كداش عمرك؟
عندي أنا جاي لبلا 1935 اللي فاش جاي وليني كنت جاي لقدام غير كنا عاد ما درناش بكري لي تاسيفيل ما درناهاش احتفت لي خرب بعاد لاج عاد ودرنا لي تاسيفيل تكون عندي 85 دوك جوي واه لا تكون عندي تكون
شتي لسكويلا هنا؟
قريت هنا في المدرسة هنا تاع كانوا نصارى هنايا كان واحد ديريكتور واحد هذاك يقولوا مشي بوا من لافراس مشي بويي كانوا هنا كانوا يقريو
وكانوا يهود معاكم؟
كانوا يهود يقريو في المدرسة كلشي كانوا يقريو هذا في الطابلة وحنا كاع واحد حدا واحد كنا قاعدين في الطابلة طابلة واحدة
كنتوا تلعبوا؟
لعبوا مخرجوا كيقولوا لها لا ريكرياسيون
مخلطين
يلعبوا العرب واليهود والنصارى وكل شيء كاع كانوا هنا
كان واحد منهم كان فريمون تون امي
كاين مارسيانو دافيد مارسيانو دافيد
فين مشى؟
هذاك راه في فرنسا هذاك راه في فرنسا باري وكاين واحد إيزاك وكاين بن حمو جوزيف هذوك راهم في الطريق كو كانت عندي نمرة كو هضرتي معاهم من هنا مشات لي تهضرت شحال هادي هني مشات باش مشاو لفرنسا وفلسطين وميريكان كان جو باركونيت هنا كانت تجي في الليل كانوا يجمعوهم الحوايج ديالهم في واحد الطابي ويعقدوه بالكردة ويجمعوه ويديروه في الفالكونيط ويركبوه هما ولادهم والنساء ديالهم ويركبوه ويمشيو يركبوه في 12 تاع الليل 11 تاع الليل وحدة تاع الليل يصبحوا في فاس ومن فاس يركبوه في الباطو ويمشيو إيوا وكاع مشات كل شيء مشى كل شيء مشى
Dommage. Nous sommes en compagnie de Simone Bitton, bonjour.
Bonjour.
Alors hier nous avons vu Ziyara, donc un film que tu nous as proposé au Festival de Jindou. Peut-être vous pourriez le présenter un petit peu.
Ouais. Alors, Ziyara, ça veut dire visite ou pèlerinage, c'est un mot arabe. Et au Maroc et au Maghreb, en général, ce mot est surtout utilisé dans le contexte du culte des saints, qui est une tradition populaire très très ancrée au Maghreb, dans d'autres parties du monde arabe, mais enfin vraiment au Maghreb, vraiment la terre est quiconque a voyagé au Maroc, en Tunisie le sait, on voit des petits mausolées un peu partout sur les collines, des petites coupoles blanches, voilà. Et la particularité qui moi m'a beaucoup intéressée, même si c'est pas du tout un film ethnologique, c'est que beaucoup des saints au Maroc, en tout cas, étaient des saints partagés, c'est-à-dire vénérés à la fois par les juifs et les musulmans. Il y avait une très grande communauté juive au Maroc, de environ 300 000 personnes dans les années 50. Ils sont tous partis depuis. L'histoire a fait qu'ils sont partis, beaucoup en Israël, mais aussi en France, aux États-Unis, au Canada. Il y a des gens d'origine juive marocaine un peu partout. Tout le monde en connaît. Et moi, j'en fais partie. Moi, j'ai quitté le Maroc à l'âge de 11 ans, en 66. J'y ai grandi. Je suis partie à l'âge de 11 ans. Et nous étions une communauté très traditionnelle. Et très, je veux dire, les saints, c'était important, quoi. Même, par exemple, ma maman, qui était une femme déjà bien moderne, qui avait son certificat d'études, qui lisait beaucoup, voilà, qui croyait tout à fait en la science, etc. Mais quand elle avait un enfant malade, elle l'emmenait voir les saints, quoi. Au cas où, quoi. Ça peut pas faire de mal. Et dans les familles musulmanes, c'était pareil. Et c'était aussi un lieu de convivialité. Voilà, aller chez le saint, c'était le pique-nique, c'était la communion avec la nature, c'était rencontrer des gens. Il y avait des pèlerinages annuels, il y avait des... Donc moi, quand j'ai commencé à retourner au Maroc, à l'âge bien plus adulte, moi qui suis vraiment une mécréante... mais j'avais envie d'aller voir les saints, parce que les saints ont bon goût, ils sont dans des endroits magnifiques en général, et puis c'était une manière de retrouver mon pays par les pieds, quoi, de retrouver le Maroc en voyageant et en ne m'arrêtant pas à la carte postale des grandes villes impériales, très belles évidemment, mais... moi, je ne suis pas une nostalgique. Même quand je fais un film sur le passé, c'est le présent qui m'intéresse. Et de toute façon, je considère qu'on filme toujours le présent. Même quand on fait parler des gens du passé, leur corps, on le filme au présent. Et on peut voir le temps qui est passé en regardant leur corps et en entendant leur voix. Mais... Donc voilà, en fait c'est un film où je visite, où je pèlerine le Maroc de mon enfance en prenant la route des saints comme itinéraire, et il y a 17 étapes dans le film. À chaque fois c'est un sanctuaire ou un cimetière ou un lieu où vivaient des juifs, et ce qui est formidable, c'est que tous ces endroits ont des gardiens musulmans. Voilà, qui ont souvent reçu cette tâche de père en fils ou de père en fille parfois, et qui sont là de manière tout à fait naturelle, même s'il n'y a plus de juifs, mais ils continuent à préserver et à s'occuper du petit cimetière juif ou du sanctuaire juif ou du musée juif. Et ça, c'est très 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 touchant. Et je sais que c'est... une période où les gens de votre génération, ça leur fait peut-être du bien de savoir que les juifs et musulmans ne se sont pas toujours tapés sur la gueule, et que ça a existé, et que ça serait bien que ça revienne.
Ouais, ça rejoint un petit peu la présentation que tu as faite. Tu as parlé de réconciliation, un film au nom de la réconciliation.
J'ai parlé de consolation.
Consolation. Mais moi, ça m'a fait presque de réconciliation avec l'histoire, on va dire, par effet ricochet, en voyant ton film.
Les Juifs et les Marocains, les Juifs et musulmans marocains ne se sont jamais fait la guerre. Hein. Les Juifs sont. L'histoire a fait qu'ils ont été séparés. Mais il n'y a jamais eu de violence intercommunautaire au Maroc, ou alors des cas vraiment très très isolés. On vous trouvera toujours, mais très très peu. En tout cas, rien à voir avec l'expérience juive européenne, par exemple. C'est vraiment absolument incomparable. Donc, on n'a pas besoin de se réconcilier. On a besoin de puisqu'on ne s'est jamais fâché, on a besoin de se retrouver et d'assumer notre histoire. Et ce qui est merveilleux, c'est que les Marocains qu'on a laissés derrière nous se souviennent de nous, et pour beaucoup se souviennent de nous avec une grande nostalgie. Et il y a des gens dans mon film qui pleurent en se souvenant des Juifs qui sont partis. C'est ce sentiment-là que je voulais passer. C'est-à-dire que je m'intéresse à eux. Je m'intéresse à leur traumatisme, à eux, pas au mien. Ça y est, les Juifs du monde arabe ont déjà pas mal raconté leur histoire, et c'est très bien, il faut qu'on continue dans des films, dans des romans. Mais ce traumatisme-là de l'exil, de celui qui part, il est fort intéressant, évidemment, mais c'est pas celui-là qui m'intéressait dans ce film-là. C'est le traumatisme de ceux qu'on laisse derrière. Voilà. De cette société qui avait une grande minorité religieuse et qui n'en a plus. Et qui se retrouvent seuls et orphelines, et qui le verbalisent. Ce sont des gens, pour la plupart, très simples et très humbles dans Ziyara. Mais je trouve qu'ils verbalisent ça très bien, quoi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais ils trouvent les mots pour le dire, quoi.
Moi, ce que j'ai vu, c'est au-delà de la nostalgie du bon vieux temps, on pourrait dire, le présent, c'est plutôt le devoir de mémoire. Ouais. Je l'ai vraiment ressenti. Et par moments, quand dans votre film, on arrive dans les hauts atlas, on a l'impression que c'est vraiment figé dans le temps. Ouais. Comme si c'était hier, en fait, les années 50. Ouais.
Oui, mais alors c'est un problème, ça aussi. Je ne suis pas angélique. Et quand je vous dis, je filme le présent, et le présent du Maroc profond, c'est pas un plaisant riant. C'est un plaisant souvent miséreux, délaissé. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Après 60 ans d'indépendance, on sent bien que, voilà, on sent que c'est une société très jeune. Dans l'école que je filme, qui est une ancienne école juive, qui est maintenant une école normale, publique, il y a quand même 600 enfants dans une petite école. C'est une chance, c'est merveilleux, mais en même temps, c'est pas à la hauteur, hein. Les services publics au Maroc ne sont pas à la hauteur, loin de là, et ça se voit dans les routes que nous empruntons, ça se voit dans les villages reculés que j'ai filmés. Le paysage est très beau, le visage des gens est très beau, mais on sent la rudesse. Et je pense qu'il y a dans la nostalgie du juif, il y a la nostalgie un peu du bon vieux temps, quoi. Voilà, c'est-à-dire plus la vie est dure et plus on regrette le passé, parce qu'on idéalise le passé. Et j'ai essayé de faire passer ça, voilà. Et certains le disent, voilà. Il y a un monsieur qui dit « Dieu bénisse l'histoire ». C'est un mot extraordinaire, non, de dire ça. C'est-à-dire « Dieu bénisse le passé ». On fait un peu partie, voilà, d'une idéalisation d'un passé qui n'était pas paradisiaque non plus. Mais voilà, le Maroc est traumatisé par la perte de ses Juifs. Moi, je pense qu'en général, le monde arabe est traumatisé par la perte de ses Juifs. Et que c'est une des choses dramatiques, pas la seule, bien sûr, mais ça doit être une des raisons du malheur arabe contemporain. Le fait de ne plus avoir eu de minorité religieuse dans beaucoup de pays, parce que c'est un défi d'avoir une minorité quand on entre dans la modernité. Il faut gérer ça. Et le meilleur moyen de gérer ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est la démocratie. Quand on n'a pas ce défi, c'est plus facile de s'unir autour de dénominateurs communs moins progressiste, disons.
Alors moi, je voudrais que tu reviennes sur un moment donné, que tu m'éclaires un petit peu dans un des cimetières que tu visites. Il y a une demande, on parle de demande d'autorisation, oui, de visite de ces cimetières juifs. Oui. Je voudrais que tu racontes un peu cette anecdote, surtout qui a suivi derrière, parce qu'on voit pas l'image. Donc la personne qui t'accueille dit « Je vais déclarer une fois que tu es parti ».
Oui. C'est un film où je suggère beaucoup de choses, je crois. Le Maroc n'est pas un pays où la parole est libre. Hein, elle est plus libre que dans d'autres, moins libre que dans d'autres, moins libre qu'ici, en tout cas, assurément. On est loin du compte. Les choses se disent parfois entre les lignes. Et dès le début du film, par exemple, filmer au Maroc, c'est pas simple, quoi. Filmer au Maroc.
Pourquoi ?
En extérieur, parce qu'il faut des autorisations pour tout et qu'il y a toujours un flic derrière vous et qu'il est arrivé, alors ça on le voit pas dans le film, mais j'ai eu parfois deux motards derrière notre alors que j'avais toutes les autorisations nécessaires, c'est-à-dire le fait de mettre de planter une caméra dans l'espace public, si c'est pas pour filmer la grande mosquée ou la tour médiévale ou les échoppes pittoresques, c'est suspect déjà. Voilà, faire un film documentaire au Maroc quand on est en extérieur, c'est vraiment compliqué. Il faut beaucoup d'autorisations. Je les avais. J'ai mis du temps à les obtenir, mais je les avais. Le film a un financement d'État marocain, entre autres. Il a une avance sur recette marocaine que j'ai obtenue en tant que citoyenne marocaine. Mais quand même, c'est un paysage qui est un peu vierge de documentaires. Et donc, il y a beaucoup de suspicions. Il y a beaucoup d'autorités qui vous débarquent, qui vous empêchent de travailler, parfois par surcroît d'hospitalité. C'est-à-dire, il y a des étrangers, vous êtes dans un petit bled comme ça. Vous sortez votre caméra, vous commencez à parler avec les gens. Il faut faire vite, parce que effectivement, une demi-heure après, vous risquez d'avoir le caïd, le cheikh, le maire, les flics et tout, qui parfois, avec la meilleure volonté du monde, sont là avec un plateau de thé. Un petit, vous savez pas très bien s'ils sont là pour vous accueillir ou pour vous surveiller. Ou pour savoir, voilà, c'est les codes du pays. Donc, et parfois, très souvent, on arrivait dans un endroit et le fait même qu'on ait passé ou que mon assistante ait passé un coup de fil quelques heures avant pour dire voilà, on va arriver, on est sur la route, on arrive, et ben ça suffisait pour qu'on ait un comité d'accueil à l'arrivée, quoi. Donc j'ai voulu le suggérer sans m'apesantir là-dessus parce que c'est pas le sujet du film, mais c'est pour ça que les premiers mots du film, c'est quand même le gardien du cimetière qui me demande mon autorisation et mon autorisation de tournage et l'autorisation de la communauté juive de rentrer dans un cimetière, etc. J'avais une pochette pleine de papiers d'autorisation pour faire ce film, donc et des fois ça c'était un peu trop, quoi. Donc je me suis débrouillée pour que ça rentre dans le film sans en faire un truc central. Mais oui, donc il y a cette jeune femme qui me dit que, mais courageusement d'ailleurs, qui me dit j'ai pas, en principe je suis allée gardienne d'un tout petit cimetière dans une toute petite ville, et elle me dit j'ai pas averti les autorités que vous veniez nous filmer, parce qu'on lui avait téléphoné avant, parce que je sais qu'ils vous empêcheraient de travailler, donc je leur dirai après, voilà. Mais je me suis permis de le mettre dans le film parce que je pense pas qu'elle aura des problèmes, c'est une petite chose, et elle dit rien de, ils vont voir le film, c'est pas politique. Mais enfin, elle a quand même ce courage-là de dire à la caméra et de dire aussi d'autres choses. Elle dit aussi qu'elle est là parce qu'elle aimerait bien avoir un vrai boulot, mais qu'elle en a pas, quoi. Parce qu'elle a fait des études, mais il n'y a pas de travail. Donc et c'est ça le grand problème du Maroc et de beaucoup de pays émergent, comme on dit aujourd'hui. Avant on disait en voie de développement, et puis avant on disait sous-développé. Voilà, le vocabulaire change, mais c'est toujours la même réalité, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes et pas de débouchés pour eux, quoi. C'est-à-dire ils vont grossir le rang des chômeurs et donc des désespérés, et donc éventuellement aussi le rang des révoltés. Et ça, je tenais à ce que ce soit dans le film sans en être le sujet principal, mais parce que c'est un devoir que je dois aux gens que je filme.
On a parlé un peu d'autorisation de tournage pour pouvoir écrire un film, le tourner. Mais je me demande, pour le montrer après à présent, pour diffuser après ces images dans ce pays où tu les as tournées, il y a aussi, du coup, apparaît en parallèle, les personnes que tu as mises dans ton film, est-ce qu'elles ont pu avoir la chance de se voir ?
Pas encore, mais ça c'est à cause de la Covid. C'est terriblement très triste, mais les salles de cinéma ont été fermées au Maroc pendant un an et demi. Elles viennent à peine de s'entrouvrir, il y en a très peu. Elles vont pas passer un film comme Ziyara parce qu'il faut qu'ils se fassent un petit peu de trésorerie. Donc ils vont passer les blockbusters américains qui attendent pour espérer avoir un peu de public de teenagers qui remplissent un peu leur caisse. Par contre, il va passer à la télévision. Il y a une petite part Il est soutenu par la deuxième chaîne marocaine, le film, et nous avons déjà une date de diffusion. Ils ont même eu, ils auraient même pu passer plus tôt, mais ils ont eu la politesse d'attendre la sortie française, la sortie en salle française qui aura lieu début décembre, afin que le film ne soit pas piraté trop tôt, parce qu'au Maroc, dès qu'un film qui traite du Maroc passe à la télévision n'importe où dans le monde, le lendemain il est sur le trottoir à 5 dirhams, donc... quand même, voilà, donc ils ont... voilà. Donc il passera à la télévision marocaine sur 2M, je crois qu'on a déjà la date précise, le 9 janvier, voilà. Et c'est une très bonne case documentaire, il n'y a qu'au Maroc, à ma connaissance, dans le monde arabe, où il y a une telle case documentaire, le dimanche soir, quasiment en prime time, c'est-à-dire vers 21h30. Pour un film documentaire chaque semaine et qui fait de très très bonnes audiences. C'est-à-dire les gens sont très friands du cinéma documentaire. Et donc voilà, ça sera très important pour moi, cette diffusion. J'ai déjà eu des films diffusés à la télévision marocaine, mais pas de films qui traitent du Maroc. Et de ça, quoi, des juifs marocains,
de montrer ton regard au Maroc.
D'une certaine manière, voilà. Et, ce film est tout à fait une manière pour moi de... Je l'écris d'ailleurs en début du générique de fin, de remercier... Je commence le générique de fin par un carton qui dit « La réalisatrice remercie les gardiens musulmans de sa mémoire juive ». Et c'est exactement ça. Je remercie les Marocains que j'ai rencontrés de sauvegarder ma mémoire et de préserver les tombes de mes ancêtres, ce que moi-même je ne fais pas, puisque je suis partie en les abandonnant derrière moi. Mais ils s'en chargent très bien, et je pense qu'ils ont droit à en être remerciés.
Oui. Mais du coup, de ces gardiens, on se rend compte que c'est un peu une transmission de père en fils.
En général.
Et par moments, je me suis demandé quel était le comment la diaspora juive marocaine arrive à financer ces gardiens.
Ils sont, comme vous le voyez, ils sont pas riches. Hein.
Exactement.
Et puis je me fais beaucoup de soucis pour eux. Il y en a certains que j'ai contactés pendant cette année Covid parce qu'ils vivent essentiellement des petites pièces ou des petits billets que leur glissent les gens qui viennent voir les tombes de leurs proches, justement. Et ce flot s'est complètement tari puisque tout était fermé, les voyages, il n'y avait pas de vol. Donc ça a été pour eux un an ou deux années très 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 difficile, quoi. Voilà. Ça reprend, heureusement. Oui, alors ça dépend des cas, des situations. Il y a aussi, il y a dans le film la jeune conservatrice du musée juif de Casablanca. Elle est fonctionnaire de l'État, elle est salariée, c'est une conservatrice, du ministère de la Culture. Mais pour ceux qui sont les gardiens, celle de la gardienne de la très belle synagogue de Fès, elle aussi est salariée. Elle est salariée par la communauté juive locale. Voilà, qui salarie quelques personnes pour les quelques synagogues qui sont encore en activité. Mais tous les autres, c'est le pèlerin de passage qui pourvoit à leurs besoins. Donc, on ne sait pas. Vous savez, l'histoire continue. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce que j'ai saisi est peut-être en voie de disparition, probablement. Ou alors, l'État marocain va décider peut-être de faire une liste et de ne pas tout préserver, mais d'en préserver certains. Et là, de salarier les gens, je pense que c'est ce qui commence plus ou moins à se passer. Mais c'est pas possible et on ne peut pas exiger d'eux qu'ils préservent tous les cimetières et toutes les anciennes cités. C'est pas possible, forcément. Il y a des choses qui tombent en ruine. On est parti. Il y a des communautés de villes. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des, je sais pas moi, les juifs originaires de la ville de Sefrou. Maintenant les réseaux sociaux servent beaucoup à ça aussi, qui se font une page Facebook et puis là et qui se font une cagnotte pour restaurer leur cimetière, voilà, entre eux. Alors ils sont au Canada, ils sont en Amérique, ils délèguent l'un d'entre eux ou bien un petit rabbin ou voilà qui y va et qui paye les maçons et qui restaure il y a beaucoup d'initiatives de ce genre. Le lien en tout cas entre la diaspora juive marocaine et le Maroc ne s'est jamais complètement rompu. Et en ce moment, j'ai le sentiment qu'il est dans une phase, j'en suis peut-être moi-même un exemple, en phase de... C'est-à-dire, une fois le premier traumatisme passé, il y a peut-être une sorte de renouveau, de retour, peut-être pas de retour pour s'installer, mais pour commencer à y aller plus souvent. Et... Donc je ne sais pas très bien ce qui va se passer. Je vais vous dire, franchement, ce n'est pas tellement ça qui m'importe. Si un cimetière, je veux dire, si une petite ville a besoin du terrain, du vieux cimetière juif pour construire des habitations, enfin, c'est pas quelque chose que je trouve scandaleux.
C'est la vie des hommes, ça, c'est la vie de nos villages.
C'est la vie, voilà, je n'exige pas du tout, ni de l'État marocain, ni de la diaspora juive, qu'elle préserve tous ces endroits. Moi, il me suffit que là où il y a eu un ancien quartier, c'est comme cette école, par exemple, un ancien lieu juif qui a été investi par la population d'aujourd'hui, et de voir 500 enfants musulmans dans l'ancienne école juive de Demnat, ça me réjouit. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est-à-dire de voir un ancien quartier juif complètement réhabité, c'est-à-dire qu'il y ait à nouveau des familles, des enfants qui naissent là, tout ça. C'est ça le plus beau. C'est ça la meilleure préservation. Maintenant, quand c'est déjà en ruine, quand c'est perdu, eh ben moi, il me suffit qu'il y ait une petite plaque, voilà, que ça devienne un quartier ou des lotissements ou un jardin public ou ce que vous voulez, mais qu'il y ait une petite plaque qui dise « Ici, ont vécu 5000 juifs ». Voilà, c'est ça, c'est beau, quoi. Ça suffit. Pas besoin de tout préserver, ça sert à quoi,
hein. Oui, je suis d'accord. Alors après, je voudrais aussi, tu nous parles de l'eau. Un élément très important dans ton film, c'est toi Loïc d'ailleurs qui m'a fait remarquer ces détails, la présence de l'eau.
Oui, c'est un peu dès le début, c'est un peu comme une incitation au voyage, en plus un road movie, un peu comme un pèlerinage, mais surtout le road movie camion, l'incitation au voyage, les paysages sont fantastiques. Et c'est vrai que moi, de suite, la pluie m'a beaucoup marqué, et la pluie et les oiseaux.
Ben, nous sommes ici à la campagne, à Jindou, la pluie c'est important partout, dès qu'on sort de la ville, la pluie, il n'y a rien de plus important. Vous savez, il y a une phrase qui est restée célèbre du maréchal Lyoté, c'est-à-dire le colonisateur en chef du Maroc, qui disait au Maroc, gouverner c'est pleuvoir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, s'il ne pleut pas, voilà, ça ne marche pas. Donc, et très souvent... voilà, les saints, on les implore pour la pluie aussi, bien sûr. C'est un pays du sud de la Méditerranée, donc il y a souvent des sécheresses, et puis il y a souvent des cataclysmes naturels, parce que quand il pleut trop, donc ça emporte tout sous son passage. Bien sûr, l'eau est très importante. Et puis l'eau, alors moi j'ai appris ça en faisant le film, c'est-à-dire je savais bien sûr qu'il y avait une vénération populaire, mais je ne savais pas qu'il y avait tellement de rituels de femmes musulmanes et juives qui étaient liées à l'eau. C'est-à-dire que pour qu'elles ont encore aujourd'hui une manière très particulière de s'asperger d'eau sur le lieu saint, près du tombeau du saint, et que c'est par le fait de s'asperger d'eau que c'est là que la bénédiction du saint va passer. Et ça, je pense que ce sont des rituels. Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une anthropologue, mais il me paraît évident que ce sont des rituels très anciens qui n'ont rien à voir ni avec l'islam ni avec le judaïsme.
C'est universel. L'eau n'a pas de religion et elle est présente pourtant dans toutes les religions.
Et ce qui date d'avant le monothéisme, sans doute, là où il y avait des sources, il y a des esprits divins qui rôdent par là, et en particulier les femmes stériles ou bien les femmes qui ne trouvent pas de mari, voilà, elles vont s'asperger de cette eau bénie pour implorer le saint, en fait, d'intercéder auprès de la divinité. Et ce sont en général des endroits qui sont beaux à couper le souffle, quoi, voilà. Et j'aime beaucoup ce saint qui s'appelle Moulay Maï, c'est-à-dire le maître de l'eau. Il y a une rivière qui coule dans la montagne, et puis il y a ce petit mausolée, c'est ce reste de mausolée juif, et puis à 20 mètres de lui, il y a un mausolée musulman, donc ils étaient tous les deux, là, les deux patrons, ils pouvaient se parler entre eux, hein, quasiment, tellement ils sont proches l'un de l'autre, et tous deux en surplomb sur la vallée où coule cette rivière. Et je me dis, tout ça est très très ancien, quoi. Ça, Et c'est parce que c'est très très ancien que ça va perdurer. Ça a dû changer de forme déjà plusieurs fois dans l'histoire et ça en aura peut-être encore une autre. Et puis je sais pas, c'est mon pays, c'est là, donc c'est là qu'on sent un lien vraiment quand on est les pieds sur la terre et que l'eau coule et qu'on vous raconte des vieilles histoires comme ça, et qu'en plus il y a votre nom dans le cimetière, même si c'est quelqu'un dont vous avez jamais entendu parler, parce que le nom de Biton est très répandu. Alors, dans tous les cimetières juifs du Maroc, il y a des Bitons. Eh ben, vous dites, ben voilà, là, je suis vraiment d'ici, quoi. Moi, je me considère comme une citoyenne du monde, mais vraiment au Maroc, je peux pas y couper, quoi. Je suis de là, c'est clair et net, quoi. De toute façon, dès que j'ouvre la bouche et que je dis trois mots en dialecte marocain, même si je le maîtrise pas très bien, mais je le baragouine, ils comprennent tout de suite que je suis juive, et non seulement que je suis juive, mais que je suis juive de Rabat, tout juste s'ils peuvent pas me dire eux-mêmes à peu près à quelle année je suis partie, parce qu'ils ont une connaissance très fine des différents dialectes, des différences prononciations.
Je vois l'heure qui tourne, tu vas aller voir le film après, Nocturno.
Oui,
peut-être te demander avant, est-ce que tu as vu un film ici dont tu voudrais nous parler?
J'ai vu quelques films de Marie-Claude Treilhou, qui en plus est une amie, mais je n'avais pas vu tous ses films. Et j'étais très contente de voir le film à la soirée d'ouverture que je n'avais jamais vu. Le Jour des Rois, formidable ce qu'elle a fait. Moi, j'avais vu Simone Barbès à la sortie en 1980. J'étais toute jeune, comme elle, et c'est un film qui m'avait vraiment fait rentrer dans... Elle a fait rentrer le cinéma dans la modernité, et puis ça nous avait épatés, et qu'une femme fasse ça, voilà, c'était... Très bien, chapeau. Je trouve que c'est un choix formidable que le festival a fait de faire une rétrospective Marie-Claude Treilhou, parce que c'est vrai qu'elle a été très injustement oubliée, alors qu'elle a une filmographie à faire pâlir, extraordinaire, à la fois en fiction et en documentaire. J'ai vu Notre Algérie de Lina Soualem, que j'ai beaucoup aimée, vraiment. Très émouvant, très pour un premier film, chapeau, très beau documentaire. Et puis là, je vais voir nos tourneaux. Voilà.
Très bien. Ouais. Mais en tout cas, Simone, merci beaucoup pour ce moment de radio en ta compagnie. Merci. Et à bientôt. Et ce soir au cinéma de Verdure, on démarre à 21h30 avec un court-métrage, hein, comme d'habitude, c'est Dorlis de Enrica M.H. Dorlis, c'est le récit de Nora, adolescente martiniquaise de 15 ans, qui est contrainte de suivre sa mère Laure et sa petite sœur Mélissa dans le nord de l'île pour vivre quelque temps chez Henri, son grand-père paralysé depuis un AVC. Mais l'atmosphère de la maison et la présence d'Henri vont alors réveiller chez Nora des souvenirs qui lui font craindre l'attaque d'un esprit malfaisant. Dorlis est un film qui sera à voir ce soir à partir de 21h30 à Gentoo, un film de Enrica M.H. La soirée se poursuit avec Une vie démente de Anne Siro et Raphaël Balboni. Anne Siro qui sera d'ailleurs présente demain à la tchatche de 16h30 pour discuter autour de ce film. Et donc elle sera aussi présente ce soir, vous imaginez bien, pour présenter ce film. Une vie démente, c'est l'histoire de Alex et Noémie qui sont trentenaires et ils voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, l'élégante et charismatique mère d'Alex, perd peu à peu les pédales. Comportement farfelu, dépenses absurdes, Suzanne, la maman, devient Suzanne, l'enfant. Drôle d'école de la parentalité alors qui s'ouvre pour Alex et Noémie.
C'est bien de faire l'exercice.
Oh maman.
Faire un enfant, faut faire l'exercice.
Mais non.
Tu dois tout commenter comme ça. Maman, c'est une place.
Suzanne, c'est une place handicapée.
Ouais, tu peux me passer la passoire, maman?
Oui.
La passoire.
Je crois qu'elle est un peu bizarre, ta mère.
Elle est toujours bizarre, ma mère.
Qu'est-ce que t'as en ce moment? C'est quoi le problème, maman?
Chaque fois que je suis inquiète, j'étais allée foutre le nez dans tes affaires.
Elle est déclarée en retraite de toute activité depuis 2 ans.
Mais qui a fait ça? C'est ouais. Fort.
Mais c'est vous, c'est madame qui a fait ça.
C'est madame. C'est madame.
Canard, belette, lapin, renard.
Fourdi.
La maladie, elle va pas se stabiliser.
Mais on va pas avoir un enfant maintenant, c'est le bordel.
Mais c'est tout le temps le bordel, la vie c'est le bordel.
Mais madame, vous êtes dans ma voiture ?
Bonjour monsieur.
Bah qu'est-ce que vous faites là ?
Ah bah, je fume monsieur. Maintenant, on fume ! C'est la dernière personne avec qui j'ai fait l'amour.
Bah maman...
C'est comme si parce que ta mère était malade, on n'avait pas le droit de s'amuser, qu'on n'avait pas le droit de vivre en fait.
Moi j'arrive pas à voir qu'elle est heureuse, j'arrive juste à voir que c'est plus elle.
Mon fils est célibataire. Est-ce que vous seriez intéressé pour...
Une vie démente de Anne Sirot qui sera projetée ce soir à Jindou au cinéma de Verdure à partir de 21h30. Ce film, c'est l'histoire de la démence sémantique qui est une maladie neurodégénérative. Une maladie qui perd petit à petit ses mots et ses inhibitions. Ainsi, le malade perd les codes de la vie sociale. En vivant aux côtés d'une personne atteinte de démence sémantique, on prend alors conscience de l'immensité des possibles au-delà de la bienséance. On réalise à quel point nous avons intégré les nombreux codes du savoir-vivre, car chaque fois que le malade parle ou agit, il tape en dehors du cadre. Il y a bien dans cette maladie l'expression d'une forme de rébellion festive. Bien sûr, cela pose toutes sortes de problèmes, mais en y regardant bien, cet individu malade est également pour la société une rare opportunité de mise en perspective. C'est le point de vue d'Anne Sirot qui nous propose ce film, Une vie démente, à voir ce soir à Jindou. Vous pourrez en discuter avec elle demain à partir de 16h30 lors de la chat. Et pour la deuxième partie de soirée, direction le nord et avec un western nordique, The Last One, qui se déroule dans la toundra en Laponie. Le personnage principal est un jeune mineur, c'est Rupi. Il espère gagner suffisamment d'argent dans les mines en excavant la toundra. Mais le travail est à l'arrêt car le père de Rupi, éleveur de rennes, refuse de vendre ses terres. Le propriétaire de la mine, surnommé le pêcheur, est intéressé par la copine d'un ami de Rupi, une fille dont Rupi est secrètement amoureux. Alors que la vie dans le village de mineurs est devenue dangereuse, Rupi, lui, doit décider de son appartenance. Est-ce la toundra primaire de ses ancêtres ou ses intérêts personnels qui animeront son avenir ? Réponse ce soir dans The Last One. Je vous propose de plonger dans l'ambiance de ce film dès à présent.
Ne on semmosia hetkiä, jolloin suomalainen mies ei anna periksi. Ei, vaan silloin jatketaan.
Oletko puhunut ukolle? Jos ei maata, mitä kaivaa, niin mulla ei ole kaivosta. Nyt näytät, kuka on isäntä talossa, perkele. Isäntä, miksi siet myy?
Taisi ihan joku totta. Minun kuolevaani.
Katu täytyy.
Täällä ei ole yhtään paikkaa, se voidaan enää mennä yhtään edetä mihinkään.
Ihan pikkasen kaivataan vielä.
On pakko lunastus paperi tämä! Nyt nimi alle, että lähette perkele vittuun täältä kaikki!
Missä?
Ootan kyytiä.
Niin.
Mä en pysty täyttämään sinun unelmiasi, mä en ole mikään jumala.
Uskotko kohtaloon?
Mä uskon kohtaloon. Mutta ei tää on mun kohtalo.
Eikö?
As soon as you're born, they make you feel small.
Miten susta tuli tollanen? Musta.
But giving you no time instead of it all.
Haluatko mennä ylöspäin? Haluatko satana valua näiden kaikkien muiden kanssa niinku rinnetä alaspäin niinku omassa paskassa, valua alaspäin?
A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Vittua se poika meinaa, vittu! Ihan vähän vielä. Ihan vähän vielä.
The Last One, un western nordique à voir ce soir à 21h30 au cinéma de Verdure dans le cadre de ses 37e rencontres cinéma de Jindou, film projeté en deuxième partie de soirée. Et pour la séance itinérante direction Fraissinet-le-Gela, où à 21h30, vous pourrez voir L'Usu de Alex Camilleri. Ce film va nous parler de pêche. Depuis des générations, la famille de Jess Mark pêche sur le Luzu, un petit bateau traditionnel maltais. Il aime son métier, mais son activité s'effondre petit à petit à cause d'une industrie de la pêche qui, elle, est impitoyable. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Jess Mark prend alors la décision de se tourner vers le marché noir.
Bonjour. عندي تا عندي الكوتش مملية
وهي مش تغفتت من تيه سمو على دارك كم مصابيه
لا بقالي تاني
تدر لي
بقالي
دلة
تين عزيرة نا
سهرة شفيه
سهرة من هي
بالكم
بالفورتين
وهي كنا عمون بالفورتين كنا تلاون أخرى ما هنش كنا استشعية
تجاجي سايد قبلك
والله ورا ملا كم ستاتا
استا الجيادة Grazie. Giù, la terza sera.
Oh, ma te la tassi non mi storti, eh? Ah, poi tre ore per il barra, ho già il targiù stessa. Targiù sti gelato, ma l'hanno due sere in acchia.
Da prendi. Va bene? Ciao.
Sì.
Io, no.
لا
هلا ما تنساش تريني البروفا.
Vous étiez à l'écoute d'un extrait de L'Usu de Alex Camilleri, film qui sera projeté ce soir dans les séances itinérantes à Fraissinet-le-Gela à partir de 21h30. Et avant de terminer ce point programmation pour ce mardi 24 août, notez que vous avez la librairie Tartinerie de Saran qui vous attend sur les rencontres Cinéma Djendou, l'occasion de vous procurer d'excellents ouvrages en lien avec les thématiques des films proposés, l'occasion aussi d'y discuter de temps en temps avec divers auteurs, car ceux qui font des films ne font pas que faire des films des fois, ils écrivent aussi des livres de temps en temps. Tout à l'heure, à 19h, retrouvez-nous en compagnie de Loïc pour entendre les acteurs et réalisateurs qui sont présents sur ce festival. Et pour terminer ce point programmation, je vous propose de vous laisser en compagnie de Bleu Charrette. Bleu Charrette, ils seront présents tout à l'heure à 19h sur la scène de l'apéro-concert. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes projections ici à Djendou et à tout à l'heure, à 19h sur les ondes.
you won't take me there as well. Lost the best thing you ever knew. Yes, you did. Yes, you did. Yes, you did. Yes, you did. Why you treated me so bad, made me feel so sad.